Eh bien, bonjour, je m'appelle Damien, j'ai 39 ans, je suis paysan programmateur de la ferme agriculturelle qui se situe sur la Barthelasse à Avignon. On a un ciel gris, bas, du nord, ça fait une semaine que ça dure, c'est fatigant, ça donne pas envie de... Mais du coup, on n'a pas trop chaud. On a devant nous la ferme agriculturelle qui se divise en trois parties. Une première partie d'accueil de public où il y a des événements, des ateliers, des formations, des concerts, des spectacles, voilà, un peu tout ça, des pique-niques, des banquets, voilà, tout ce qui permet de faire un peu la fête. Une deuxième partie qui est une zone de jardin collectif, ou jardin familiaux, ou jardin ouvrier, au choix. Voilà, c'est des gens qui ont leur parcelle et qui peuvent cultiver tout ce qu'ils veulent dans la limite de la légalité. Je reconnais les plants de cannabis, donc ils n'ont pas le droit de les mettre. Même au milieu des tomates. Une troisième partie qui est la zone de maraîchage diversifié sur laquelle on travaille, qui est une zone on appelle ça en agroforesterie, c'est-à-dire qu'on travaille avec les arbres qui sont des vieux poiriers de 30 ans et des zones de maraîchage au milieu de ces arbres. Parce que les arbres et les légumes ne se font pas concurrence, s'entraident et sur une technique agricole qui s'apparente au maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire qu'on travaille très très peu le sol, on le nourrit énormément en fait, et en prenant soin du sol, en fait, du coup le sol prend soin des plantes. Donc on met aucun engrais, donc aucune fertilisation, aucun produit chimique, pesticides, etc. Rien, pas de plastique non plus, on met rien en fait, on met que de l'organique et puis ça fonctionne plutôt bien, quoi.
Pour raconter un petit peu la genèse de la ferme Suricat Co d'ailleurs, c'est ça? Suricat
oui.
Ou Suricat Co?
C'est Suricat Co. Parce qu'avant, en fait, on avait une association qui s'appelait Suricat Production. Et pour pas être retrouvé par la justice, on a juste rajouté Suricat Co. Et voilà, parce que ça change tout, ce petit nom. Mais on voulait garder l'historique en fait de Suricat, quoi. On voulait, parce que c'est une asso qui a été créée en 2010, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc ça fait 12 ans quand même. Donc on voulait garder, on est sur les 4 productions, ça a vécu 8 ans, 9 ans quand même. Hein, donc on voulait garder l'historique de tout ce qu'on avait fait avec les copains. Donc on a gardé ce nom-là, presque. Mais du coup, avant, donc on travaillait sur l'événementiel. On a monté le festival Émergence au tout début, qui était dédié aux jeunes artistes tout art confondu. Après, on s'est porté petit à petit vers la rue parce qu'on s'est rendu compte que on voulait travailler vers un nouveau public. Enfin, ça servait à rien de... Vous allez voir, les termes en production de spectacle, c'est souvent les mêmes termes qu'en production légumière. C'est complètement dingue et c'est assez fou, quoi. Donc, on voulait pas cultiver un public déjà préexistant. Ça nous intéressait pas de rester dans cette démarche-là. Donc, on est allé vers la rue. On avait monté des cycles d'art de rue dans tous les quartiers d'Avignon, qui correspondait à la population d'Avignon, c'est-à-dire qu'on a les trois quarts de la population d'Avignon qui vivent extramuros et un quart intramuros, mais on a 90% des structures culturelles qui sont intramuros. Donc on est parti de ce constat-là en disant mais c'est n'importe quoi. Donc nous, on va faire sur quatre événements, on va en faire trois extramuros et un intramuros, et on va essayer de faire circuler les publics là-dedans. Et ça s'appelait Venez voir. Ça veut dire qu'on communiquait sur une date, un lieu, mais on communiquait pas sur le spectacle. Les gens ne savaient pas ce qu'ils venaient voir. Et c'était trop bien, parce que moi, je suis parti de mon expérience personnelle qui fait que je me suis pris mes plus grosses claques artistiques, c'est quand je ne savais pas ce que j'allais voir, en fait. Et, parce que sinon, on a toujours des prérequis, des attentes, ou alors si on voit que c'est de la danse contemporaine, qu'on n'aime pas la danse contemporaine, on ne va pas y aller. Et en fait, on peut se prendre des grosses claques en danse contemporaine. Donc voilà, on ne communiquait pas là-dessus, ça a super bien marché. Et sur cette base-là, on a monté le premier et dernier festival d'art de rue qui s'appelait Prenez Place. Donc c'était évidemment... Prenez place, le jeu de mots avec installez-vous pour regarder un spectacle, mais prenez place aussi, prenez place politiquement, prenez les places publiques. Et la question sous-jacente, c'était à qui appartient l'espace public, en fait. Et en travaillant là-dessus, on s'est rendu compte que l'espace public n'appartenait absolument pas au public. Il appartenait forcément à une autorité administrative. Et ça, c'était très intéressant, puisque ce festival n'a eu qu'une année d'existence. Et après, quand tout s'est arrêté avec l'événementiel, en fait, je me suis dit mais je vais faire quoi maintenant de ma vie, en fait? Est-ce que je relance tout avec les copains, on remonte nos manches et puis c'est reparti, on refait la même chose? Et je me suis dit mais non, c'est pas possible, en fait. Du coup, j'ai fait un master 2 à l'université d'Avignon, parce que j'avais déjà un DU 3e cycle, mais si je voulais faire une thèse, je pouvais pas avec un DU 3e cycle, donc j'ai fait un master 2 à l'université sur ça. pour un peu intellectualiser cet échec, en fait, en quelque sorte. Et en fait, en l'écrivant, c'est super, parce qu'en passant ce diplôme, je me suis rendu compte que... En fait, avec les potes, on avait fait un super boulot et que c'était pas de notre faute que ça se soit arrêté. Et que c'était vraiment cool ce qu'on avait monté. Donc ça a fait du bien. Et puis après, une fois que ça s'était fini, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et la vie, très clairement, m'a mené vers le monde agricole, vers justement ce nouvel axe, parce que je travaillais évidemment sur l'environnement à fond. On était un éco-festival de belle lurette. Maintenant, c'est hyper à la mode de dire, ouais, on fait des éco-festivals, mon cul, là. Mais en fait, nous, on le faisait déjà naturellement depuis hyper longtemps, quoi. En fait, quand on voit que des gens qui se disent alternatifs, etc., vendent du coca, du spritz, etc., en se disant, ouais, nous, on est pour l'alternative, etc. Enfin, mais moi, ça me fait rigoler, ça, en fait, parce que du coup, nous, ici, c'est que des sirops ultra locaux, bref. Donc, on le faisait déjà depuis belle lurette, en fait, ça. Mais en fait, en ayant une ferme, eh ben, on peut aller beaucoup plus loin, quoi. Beaucoup plus loin, parce qu'en fait, on peut poser des actes au-dessus des paroles, parce que c'est bien de parler, en fait, il faut faire, quoi. Et donc, du coup, c'est rigolo. On est, on monte ici, c'est un peu un lieu d'expérimentation, de nouvelles formes d'agriculture, mais nouvelles formes aussi, justement, de comment irriguer avec le solaire, comment traiter les eaux usées, comment vivre la sobriété au quotidien, comment essayer d'avoir une empreinte carbone proche du néant et d'être en osmose, en fait, avec la nature.
On va se balader un peu.
Allez.
C'est parti. Je te suis.
Bah, on va aller voir ma fierté de cet été là qui est la pompe électrique d'irrigation qui est alimentée grâce au soleil. Donc on est quand même dans le bassin versant du Rhône, donc de l'eau on en a quand même à profusion. Donc on n'est pas très inquiet sur l'eau. On est sur une nappe phréatique qui remonte jusqu'à la ville des Nougats là. Donc c'est quand même. Très 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 haut, donc je crois que c'est une des plus grosses nappes phréatiques de France. Donc on a de l'eau de façon assez éternelle à l'échelle d'une vie humaine. Et le soleil, c'est pareil, je pense qu'il ne va pas s'arrêter maintenant. Donc là, en fait, on est vraiment tranquille là-dessus. On est face à la pompe qui a été automatisée très récemment. C'est-à-dire qu'on a quasiment l'eau courante. Mais bon, là, tout est éteint évidemment parce qu'on n'arrose pas tous les jours, quoi. Mais voilà, forage réalisé à la main par mes soins. 3 semaines, un trou dans la main. Parce que je l'ai fait à la masse. Mais c'est cool, en fait. On dit tout le temps la pleine conscience. Mais en fait, quand on a fait ça, on utilise l'eau en pleine conscience. Quoi. Parce qu'on sait d'où elle vient. On sait que ça a été 3 semaines de galère. Parce que là, le tuyau qu'on voit qui émerge du sol, il est à 7 mètres de profondeur. Je l'ai fait en septembre, évidemment, parce qu'on fait toujours ça au moment où il y a le moins d'eau, pour être sûr qu'on soit à la bonne distance. Donc là, l'eau, elle remonte à 5 mètres à peu près. Et voilà, du coup, on l'utilise avec parcimonie, la flotte, hein, parce que du coup, on sait d'où ça vient et ce qu'on a fait pour que ça arrive là. Donc ça, c'est plutôt cool.
Ta main s'en souvient, je pense.
Ouais, c'est clair. Je crois que j'ai encore la trace de c'était dingue. Mais voilà, c'est chouette. Donc, et puis ça, en fait, c'est vraiment, ça a été imaginé pendant des mois et des mois et des mois. Donc une petite centrale photovoltaïque qui alimente directement la pompe. Et ça marche, ça fonctionne bien, c'est chouette. Donc ça produit, là, les 4 panneaux, ça produit 1200 watts. Et les performances sont complètement, enfin, sont dingues hein, sur les panneaux solaires. Là, en plus, on est sur des prix qui sont... Enfin, quand on voit l'envolée des prix du nucléaire, de l'essence, de tout ça, etc., en fait, c'est l'inverse. Enfin, là, je pense que ça va commencer à augmenter, mais les panneaux solaires, on était arrivés... J'ai un pote qui m'a dit qu'on était vraiment au prix plancher. On pouvait pas faire moins cher, là, les panneaux solaires, parce qu'en fait, on est au prix quasiment de la matière première, du transport et puis des marges de base, mais en fait c'était au moment où je les ai achetés, c'était vraiment pas très cher. Et là, ouais, on entend les oiseaux. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on a devant nous là, ces petites taches noires?
Eh ben, c'est une chasseuse. C'est Poppy, la chasseuse de campagnol. Alors tout le monde, elle sait très bien qu'on parle d'elle, c'est trop. Et en fait, on la voit en pleine action de chasse là d'ailleurs, parce qu'elle va lever sa patte avant là dans 2 secondes et puis elle va sauter comme un cabri. Regarde, ça se voit. Hein, c'est Poppy, la chienne, qui chasse les campagnols. Ah oui, les gens ne savent pas forcément ce que c'est qu'un campagnol. Donc, autre nom des campagnols, rat au pied. Mais c'est vraiment de la tête, c'est un peu comme une musaraigne. C'est un peu, c'est une petite souris, en fait, qui est vraiment l'ennemi public numéro un des agriculteurs. C'est des petites bêtes qui sont vraiment mignonnes. C'est désolant de les tuer. Hein. Désolé, je ne suis pas dans la permaculture. Il y a énormément de... En fait, on cultive quand même la présence des prédateurs, des campagnols, puisqu'il y a énormément de rapaces là autour de nous. Il y a une famille de buses, il y a une famille de faucons. Il y a des serpents, il y a des fouines, des renards. Là, on a vu un faisan qui vient de se faire bouffer cette nuit-là. Donc, en fait, il y a tous les prédateurs des campagnols. Mais les campagnols, il y a Poppy, Enfin voilà, il y a du monde quand même. C'est le seul truc sur lequel j'interviens que je tue, quoi. Non, comme on dit dans le langage guerrier, que je prélève. Et je prélève les campagnols. Mais je les... Regarde, oh, c'est impressionnant.
Ah, hein. Oh, c'est impressionnant.
Et elle arrive à en choper, hein, des fois, comme ça.
Ah, c'est dingue.
Elle les déterre.
Tu l'as vraiment prise pour ça, cette chaîne, quoi.
Non.
Non, pas du tout.
Non, je savais pas qu'elle saurait faire ça, non. Non, je l'ai prise, c'était une petite boule noire. Vous savez, beaucoup plus petite que ce que j'imaginais. En fait, je la prenais surtout pour... c'était un cadeau d'anniversaire pour mon fils, en fait. C'était ça, à la base. Et après, je me rends compte qu'elle a une grosse capacité de chien de garde. C'est un aimant, elle reste toujours avec nous, donc du coup, elle se barre jamais. Mais par contre, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, bim, elle ressent les énergies des gens, c'est trop ouf. Et en fait, les gens qu'elle sent pas, elle se met à hurler comme une dingue. Et c'est vraiment impressionnant, ça. Et du coup, c'est un très bon chien de garde. Elle nous aide, à une époque, les poules, elles se barraient souvent, donc elle nous aide vraiment à aller chercher les poules aussi. Donc c'est un chien de berger, quoi. Donc du coup, elle fait tout ce... Elle a toutes les... En fait, c'est dingue, hein, les chiens de berger, c'est fou. Ils sont tout le temps en attente d'un ordre et tout le temps à essayer de faire plaisir à leur maître, en fait. Donc du coup, c'est... Je suis un chien qui me promène sur 4 hectares toute la journée, ça va, quoi. Donc là, on a en face de nous le hangar. Donc c'est la grande nouveauté de cette année, ça. Parce que ça fait une semaine que c'est fini. Vraiment ultra récent, ça. Donc... C'était une longue bataille pour que ce soit réalisé, accepté et tout. Mais ça y est,
c'est beau,
fait.
En plus, hein.
Ouais, c'est beau. On s'est tout fait voler en mars dernier, tout le matos. Donc du coup, moi, je leur ai dit, là, les gars, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on ait quelque chose qui puisse fermer. Donc c'est un hangar agricole qui fait 32 mètres carrés, qui a été financé par le plan Rhône à 80%, donc l'État et la CNR, Compagnie Nationale du Rhône, là. Et en fait, l'idée, c'est aussi de sécuriser le matériel. Parce qu'en fait, on a fait tout un plan de prévention avec les équipes de la Chambre d'Agriculture. Et ça, c'est vraiment impressionnant, parce que ça fout la chair de poule quand on l'a fait. Parce qu'en plus, c'est du vécu, parce que c'était, la dernière fois, c'était en 2004. Donc, on a fait tous les plans d'évacuation de comment on sauve Poppy, comment on sauve les caravanes, comment on sauve les poules, comment on sauve le tracteur, le motoculteur. Et en partant du principe que, du coup, l'eau arrive... Et que tous les agriculteurs font la même chose, en fait. Donc, du coup, qu'on est sous la flotte, parce que généralement, quand il y a une inondation, il pleut fort. On travaille, du coup, la nuit, parce que on est en plan d'urgence, quoi. Et c'est intéressant, on a vraiment réfléchi à tout ça. Et en fait, ce hangar, c'est aussi ça. C'est d'une part pour protéger, évidemment, le matériel des voleurs et du au quotidien. Mais c'est aussi pour avoir la possibilité de tout monter à l'étage s'il y a un vrai problème, quoi. Donc là, l'idée, ce sera vraiment d'avoir un palan là, qui nous permettra de lever même le motoculteur, etc. Tout ce qui est à peu près moyen matériel, en fait, petit et moyen matériel, que tout soit là. Puisque, en fait, c'est ça qui a le plus de valeur, hein, c'est le petit et le moyen matériel. Après, le tracteur, évidemment, caravane et tout, il y a des zones refuges sur la Barthelas. Mais du coup, ça a été imaginé vraiment dans un concept de panique totale. Comment on fait pour que ce soit, nous, le moins la panique. Et c'est plutôt bien fait. En fait, il faut que le plancher soit à 2,50 m, puisqu'ici, en fait, les références, c'est 2,50 m en 2004 et 3,20 m en 1866. 3,20 m, donc il faut s'imaginer, vous êtes à l'étage d'une maison et vous avez de l'eau encore jusqu'au genou. Donc ça veut dire que tout ce qui est en dessous... Donc là, si tu tournes autour de toi, tu regardes, 3,20 m, tout est perdu, en fait, tout. Parce que les serres, elles font moins de 3 mètres. Ouais, ça fout des frissons, hein, c'est incroyable. Et donc, imaginez dessus toutes les fosses septiques des voisins et tout qui remontent, tout le limon, et puis 3,20 m, c'est quand même énorme. Hein, et après, ce que je me dis, moi, c'est que quand même depuis 2004, depuis la création de la CNR, il n'y a pas eu à nouveau de grosses inondations, et je pense pas que ce soit qu'une histoire climatique. Maintenant que les 17 barrages entre Lyon et la Camargue sont gérés par une seule compagnie, je pense que ça change tout, en fait. Hein. Très clairement, en fait, ils gèrent... Enfin, tu vois, maintenant, quand il y a des gros épisodes Cévenol, en fait, la Barthelas est un petit peu inondée, mais c'est surtout l'île Pio qui prend. Nous, en fait, ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est l'ingénieur de la DDT qui m'avait montré ça. Il m'a montré toutes les modélisations, en fait, d'inondations, et on imagine à chaque fois que ça vient du coup du nord, de l'amont, et que ça inonde comme ça. Et en fait, c'est pas du tout comme ça, en fait. Faut imaginer la Barthelas comme une botte, là. Et en fait, ça vient par en dessous, et ça remonte la Barthelas. C'est complètement fou. Ça commence sur l'île Pio. Et ça remonte petit à petit vers le haut de la Barthelas. Et donc nous, on est un peu pas les derniers, mais pas loin à être inondés, en fait. Puis maintenant, ils ont mis des plans d'urgence en route. Dès qu'il y a le moindre orage, en fait, on reçoit des textos de tout le monde, quoi. La mairie, les assureurs, les banques, c'est trop drôle, quoi. Attention, il va pleuvoir. Oui, on est au courant, on est agriculteurs, donc c'est trop marrant. Attention, il y a des orages. C'est pas vrai. C'est Ils sont marrants, c'est comme si on était banquier et que du coup on regardait jamais la météo, mais en fait on passe notre vie sur la météo agricole, donc du coup... D'ailleurs c'est peut-être le moment de dire que si vous entendez un petit moteur, c'est parce qu'on est en train de tondre, parce que justement il pleut assez fort normalement cette nuit, et que là vous pouvez pas le voir à la radio, mais on tond un peu tard pour la saison, et que du coup c'est déjà très haut, et si on laisse encore 4 jours en plus comme ça avec la pluie, lundi on est mort, donc il faut qu'on finisse de tondre aujourd'hui quoi.
Et est-ce que du coup tu veux nous parler de ton équipe là? Parce qu'il y a du monde là.
Ouais, là il y a du monde. Bah, en plus il y a une jardinière là dans les jardins partagés là, donc c'est la folie. C'est devenu une usine. Il y a 3 personnes avec moi cette année, c'est trop cool. C'est encore une autre nouveauté. Donc 2 stagiaires longs, donc il reste plusieurs semaines. Donc il y a Simon et Manon. Et j'ai une apprentie cette année qui s'appelle Maëlène, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en cours, mais qui sera là à partir de la semaine prochaine. Et voilà, donc du coup on est 1, 2, 3, 4. Donc 3 quasiment en permanence. Parce qu'il y a des rotations en fait, parce qu'ils sont tous évidents, ils sont tous étudiants encore. Donc en fait, mais en rotation, mais du coup on est 3 tout le temps. 3 équivalents temps plein, sans être équivalent temps plein, puisque nous je fais le choix depuis longtemps. Déjà à l'époque de Suricat, quand on travaillait en bureau, je faisais le choix de faire la semaine de 4 jours. Donc on travaillait du lundi au jeudi. Et là ici en agriculture, on peut pas trop faire la semaine de 4 jours, mais on travaille que le matin. On fait 9h, 13h pour l'instant, et je pense qu'à partir du moment où on aura les horaires d'été, là, à partir du 27. Et ben on travaillera de 8h à 13h. Et c'est bien, c'est dans une logique de travailler moins évidemment, et puis mais surtout aussi travailler mieux. C'est ça que les capitalistes ne comprennent pas, c'est que user les gens en fait ne sert à rien pour leur rentabilité de chef d'entreprise. En fait, un chef d'entreprise, s'il s'intéressait un peu plus à la vie de ses salariés, il se rendrait compte que moins ils travaillent, plus ils sont productifs et plus ils sont efficaces parce qu'ils sont reposés, contents de venir, etc. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne le comprennent pas en fait. Donc nous là on travaille 4 heures par jour x 5, donc on travaille 20 heures par semaine. Et on a un boulot colossal quoi. Mais sauf que quand on est là, on s'amuse pas, on n'est pas en train de fumer des clopes, boire des cafés, être fatigué, etc. On tabasse pendant 4 heures. Et puis après on a toute l'après-midi pour se reposer. Enfin eux ils ont l'après-midi pour se reposer parce que moi je continue à travailler évidemment. Mais c'est un truc de dingue, c'est comme la semaine de 4 jours, c'est fou. En fait je sais pas si tu le conscientises ça ou pas, mais en fait le mercredi c'est toujours un espèce de creux où tu te dis putain on est mercredi, il me reste encore 2 jours. Et ce creux du mercredi n'existe pas quand tu travailles 4 jours. En fait du coup t'es là, tu fais, quand t'es le mardi ou le mercredi tu fais putain demain j'ai fini, je suis en week-end quoi. Et en fait ça change tout, c'est-à-dire que tu fais un bloc de 4 jours où t'es à donf pendant 4 jours. T'as pas la période de creux, t'es pas obligé de remonter. Psychologiquement, en fait, ça change tout. C'est fou. Et de toute façon, quand tu travailles dans le milieu culturel avec les administrations, les compagnies, les mairies, les trucs, etc., tu te rends compte qu'il y a quasiment personne qui travaille le lundi matin. Les journalistes, pareil, ils sont tous en conférence de rédaction, en réunion du lundi matin, donc personne n'est joignable. Le mercredi, tout le monde est en garde d'enfants. Mais après, je fais des généralités, mais c'est un truc qu'on a vraiment ressenti quand on faisait de la diffusion. Et le vendredi, t'as plus personne. Donc en fait tu te dis, il y a 2 jours dans la semaine où tu peux vraiment bosser, c'est le mardi et jeudi en fait. Et du coup tant qu'à faire, autant le lundi on met en route la machine de notre structure, et après mardi on est au taquet, jeudi on est au taquet, et après on arrête de toute façon, et ça marche bien. Et le vendredi moi je travaillais un tout petit peu, mais encore ça j'arrivais quasiment à le respecter, de jamais travailler le vendredi ou s'il y avait vraiment une urgence, mais c'était un jour vraiment en option quoi. Bah, je vais ressortir cette phrase à tous les gens qui la connaissent pas, mais l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage, très clairement en fait. Quand on est, en fait, tous les gens qui ne sont pas anticapitalistes et qui se disent écologistes, ne sont pas écologistes en fait, très clairement. La croissance verte est du foutage de gueule absolu du capitalisme, c'est de la récupération, parce que le capitalisme a cette capacité de tout récupérer pour faire du pognon. La croissance verte, il faut bien être clair, ça n'existe pas en fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. En fait, imaginez, faut juste avoir cette conscience-là de se dire, de prendre un peu de recul, mais ça, je sais que c'est difficile pour plein de gens, mais de se dire, on est sur un putain de bateau, là, qui est en train de vraiment couler, quoi. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça, que la Terre, là, on vient d'apprendre que là, par exemple, sur la Barthelas, ici, moi, en dessous de nous, l'eau, elle est à 1m70. Donc, ça a un peu changé ma façon de voir les choses. Je me suis dit, putain, 1m70, quand même, ça veut dire qu'on est un peu... on n'a pas grand-chose sous nos pieds, quoi. Et c'est assez bizarre, du coup, de construire et de vivre à un endroit où c'est pas très stable. Et c'est assez rigolo parce que du coup ça fait une belle métaphore. Je pensais beaucoup à quand il y avait Thomas Pesquet dans l'ISS, je me disais putain, il y a le moindre problème. En fait ils sont séparés par 2 mm, ils le disent ça aussi dans un film, ils disent mais putain c'est 2 mm d'acier qui nous protège, ou peut-être 2 cm, qui nous protège du vide, du néant absolu. Mais putain, mais nous, c'est exactement la même chose, en fait. Hein. Il y a juste l'atmosphère. On ne s'en rend pas compte, du coup, parce qu'on est collé à la Terre. Mais en fait, on est protégé par rien, en fait, du vide absolu, quoi. Enfin, du vide, c'est pas vraiment du vide, mais on est protégé par rien. Et en fait, on est en train de cramer ce vaisseau, quoi. Très clairement. Et en fait, on est tous sur le même truc. Et on est en train de le cramer. Et on continue, mais alors, allègrement, quoi. Donc, c'est un truc de fou. Et je pense que, de toute façon, vu que personne n'en prend conscience et personne n'intervient, en tout cas dans les leaders politiques, parce que quand même, tout ce qui se passe avec le Covid, etc., nous a fait prendre conscience, à l'inverse de ce que disait Jospin à l'époque, c'est que le politique peut tout. Il peut tout, puisqu'il y a Macron qui a quand même arrêté le pays en une déclaration sur TF1. Donc le politique, s'il veut dire stop au capitalisme, en fait, il peut dire stop au capitalisme. Mais sauf qu'il ne le dit pas, parce qu'il n'en a rien à foutre. Personne n'intervient pour le climat et pour la planète, pour sauver notre planète. Et du coup, on va tous brûler avec elle. Et puis c'est très bien, enfin, c'est ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Donc, putain, quand tu vois le tableau de Libération qui montre qu'à 65 ans, il y a déjà, 30% des pauvres qui sont morts, et là, tu fais « Oh là 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 !» En fait, ce système de cotisation-là, il fonctionnait très bien dans les années 60, 50, etc. Mais il ne fonctionne plus parce que là, en fait, c'est les pauvres qui cotisent pour les riches qui vieillissent. Et c'est complètement fou, en fait, parce que moi, je ne cotise pas pour la retraite, puisque ça ne sert à rien. Je ne veux pas cotiser pour la retraite. Parce que, de toute façon, les paysans, je vais cotiser pour les paysans qui n'ont déjà pas de retraite. Moi, je n'aurai pas de retraite. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est, en fait, le minimum vieillesse, il est plus haut que les cotisations retraite qu'un mec qui s'est saigné toute sa vie dans les champs, quoi. Mais c'est aberrant, en fait, ce système, quoi. C'était la minute anticapitaliste.
Bon, allez, on retourne dans les choux de et Bruxelles.
Ben là, ouais, on peut aller dans les choux, mais avant, on va aller dans les patates.
Ah, trop bien.
Donc, on les voit pas encore, hein, les patates, parce qu'on vient de les semer. On croit qu'on dit planter des pommes de terre, mais en fait, non, on sème des pommes de terre. Et donc là, c'est une parcelle qu'on vient de travailler. Et là, il y a, je sais pas, 3000 ou ouais, 3 ou 4000 mètres carrés de pommes de terre devant nous, sous terre. Là. Donc on n'est plus sur la parcelle de la ferme agriculturelle, on est derrière. Et là, c'est une partie que je vais réserver plus à culture légumière. La nuance, elle est assez étroite, on va dire, assez faible avec le maraîchage. Mais c'est juste une zone où, du coup, on met un peu moins de soucis esthétiques. Et après, les techniques de travail restent exactement les mêmes, hein, ça se voit, hein, tu vois, il y a toutes les herbes sèches, etc. Donc on travaille aussi en maraîchage sur sol vivant. Par contre, on fait un peu moins attention et on colle plus les lignes. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de passe-pied, il n'y a pas tous ces trucs-là. C'est vraiment une culture un peu plus... pas intensif, parce que c'est, hein, le mot est un peu fort, mais on en met plus, quoi. Et là, du coup, on commence par des pommes de terre. Après, il y aura des courges qui arriveront mi-mai. Et le mois prochain, là, dans le prolongement du poteau électrique jusqu'à la haie de cyprès, là, on va faire une expérimentation de raisins de table qu'on va cultiver en pergola avec des bambous. Et on va faire des tests avec 25 variétés différentes. On va voir la résistance au vent, aux maladies, au froid, sa capacité de vivre avec le sol. Enfin, on va essayer de trouver vraiment la meilleure variété pour après le développer sur toute la deuxième moitié et faire du maraîchage sur sol vivant sous pergola. Donc imaginez une pergola de vigne vierge et de travailler là-dessous tout l'été. On sera trop bien. Sous les fruits, donc on pourra grignoter les fruits en même temps qu'on travaille. On sera à l'ombre, on sera bien, au frais, ce sera vraiment cool. Parce que là, on est quand même sur des parcelles agricoles, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui sont faites pour de l'agricole. Hein, donc du coup, il n'y a pas un pied d'ombre. Et c'est plein sud à gogo, donc il fait... En été, il fait très très chaud, quoi. Donc ce sera bien pour les légumes et pour les humains de travailler à l'ombre. Et c'est pour ça que j'ai pas de serre non plus. Parce que je ne veux pas faire travailler des humains sous serre en plein été. Mais c'est aussi pour ça qu'on travaille que le matin, quoi. Parce que, en fait, en été...
En été,
l'après-midi, il fait trop chaud. En fait, on très clairement, à 13-14 heures, on dort, hein. Enfin, on est écrasé par la chaleur et par la fatigue. Parce que quand on est paysan, c'est bien, on est musclé et bronzé, mais on peut pas en profiter tellement on est fatigué, quoi, de notre travail.
Qu'est-ce qui a changé dans ton rythme de vie depuis que tu fais ce travail-là ?
Je me couche beaucoup plus tôt et je me réveille beaucoup plus tôt. Genre là, ce matin, j'étais encore réveillé à 5h30. Et en fait, c'est que mon rythme... En fait, je suis complètement au rythme naturel. C'est-à-dire que passage heure d'été, heure d'hiver, etc., ça ne compte pas du tout. Et je reste à l'heure d'été. Parce que c'est le rythme naturel de l'être humain. L'heure d'été, donc... En fait, là, je me réveille à 5h30 tous les matins. C'est trop chiant. Et puis, quand le soleil se couche, eh ben, j'ai un gros coup de fatigue. Et en fait, je suis beaucoup plus en adéquation avec le rythme naturel de la Terre, quoi, grosso modo. Mais en fait, c'est dingue aussi. Parce que hier, j'ai fait du travail mécanique. Donc du coup, j'ai pas fait du travail physique. quand je fais du travail physique, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Mais quand je fais un travail soit intellectuel, soit mécanique, bah en fait, je dors moins et ça va. En fait, mon sommeil est complètement adapté aux besoins de mon corps. C'est impressionnant, quoi. C'est aussi une adéquation avec notre activité, en fait. Je trouve que le métier de paysan, c'est un des rares métiers qui fait travailler le cœur, le corps et l'esprit. T'as les trois parce que t'es toujours obligé de réfléchir. Soit réfléchir quand t'es en amont, soit méditer. Parce que tu vois, là, Simon, il est en train de tondre. Si tu médites pas quand tu fais de la tonte pendant 4 heures ou quand tu fais du semi pendant 4 heures, en fait, il y a quand même des boulots répétitifs, même si on les enchaîne. C'est quand même très répétitif et assez chiant. Donc, on utilise notre tête absolument tout le temps. Notre cœur, évidemment, sinon on le ferait pas, ça c'est clair et net, c'est un métier. Et puis physiquement, nos corps changent, hein. Très clairement. Hein. En fait, on travaille tellement le physique que du coup, on devient des masses. C'est rigolo. En fait, ça se voit pas parce que c'est sec, mais en fait, on est hyper fort. C'est complètement fou, c'est trop drôle. Le corps, en 3-4 ans, il se muscle à fond, quoi. Le seul métier à peu près vraiment semblable, je trouve que c'est régisseur de spectacle. Parce qu'un régisseur, c'est pareil. Un régisseur, il bosse vachement le physique, vachement le cœur aussi. Parce qu'il y a toute la partie créativité, etc. Et la tête aussi, au taquet, quoi. Mais donc, si les auditeurs ont des idées d'autres métiers qui font travailler les trois...
On fera un petit appel à nos auditeurs et auditrices, ouais, pour savoir ça.
Si, il doit y avoir aussi les infirmiers, je pense, infirmières.
Dis-moi tout ce que tu plantes.
Oh là là, ouais, ça va être long, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, le plus gros, c'est pommes de terre, courge. La plus grosse quantité, parce qu'on a mis 400 kilos de pommes de terre. En plus, on les coupe en deux, nous, les pommes de terre à l'ancienne, là. Donc, parce que je suis très économe. Par exemple, l'itinéraire de la pomme de terre, c'est qu'on va la semer là, il y a 15 jours, un truc comme ça, en début de mois. Et en fait, c'est des primeurs. Donc, ça veut dire qu'on va les récolter entre mi-juin et mi-juillet, grosso modo. Et en fait, mi-juillet, on va directement replanter les plus petites. Celles qui sont trop petites pour partir en commerce, en fait, on va les replanter pour les revendre en patates de conservation. Donc, 3 ou 4 mois plus tard. Donc, ça va être rigolo. On va vraiment surexploiter les 400 kilos qu'on a achetés. Pommes de terre, courges, oignons, ail, plusieurs types de salades, blettes, pois gourmands, petits pois... Tomates, évidemment, tous les légumes ratatouilles, hein, tomates, courgettes, aubergines, poivrons. Voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? On va mettre des petites tomates cocktail. Bah là, il y avait des choux de Bruxelles, mais ce sera pour... On remet l'année prochaine. Enfin, pour l'hiver prochain. L'hiver prochain, il y aura plein de types de choux aussi. Choux romanesco, choux brocoli, on va reprendre choux de Bruxelles, choux kale, pinard. Enfin, il y a vraiment énormément de légumes. Hein. Enfin, plein, quoi.
Et donc on peut venir chercher ces petits légumes
aux horaires du soleil, n'importe quand. En fait, la première visite, faut la faire avec moi, c'est plus simple. Comme ça, j'explique vraiment le concept et le fonctionnement, etc. Et puis pour éviter que les gens ils aillent se servir dans les jardins partagés ou des trucs comme ça. Mais au kilo, c'est les gens viennent quand ils veulent récolter eux-mêmes ce qu'il y a au sol. Donc nous, on cultive pour les gens et les gens, ils ont juste à récolter.
C'est quoi pour toi agriculturel alors ?
Bah, agriculturel, c'est le mélange du monde agricole et du monde culturel. C'est-à-dire que c'est un lieu de mélange et de mixité, on va dire, entre, et justement, c'est de rapprochement aussi entre la culture et de spectacle, enfin la production de spectacle et la production de légumes. Parce qu'en fait, vraiment, le fonctionnement elle-même, en fait, c'est des trucs qui réunissent les gens. La bonne bouffe, les bons produits, les beaux spectacles, en fait, tout ça, c'est des prétextes, en fait. Hein. Faut pas se mentir, hein. C'est des prétextes pour que les gens se rencontrent. C'est comme les restaurateurs. J'imagine qu'un mec qui ouvre un resto, en fait, la cuisine, c'est un prétexte pour que les gens se retrouvent, quoi. Et là, l'idée, c'est ça. C'est vraiment que les gens se rencontrent, qu'on fasse des banquets, qu'on fasse des trucs les plus simples possibles, les moins pédants possibles et les plus raccords, en fait, avec la vie, quoi. Là, je travaille de plus en plus avec des gens très proches, avec des copains, quoi, de moins en moins avec des gens de l'extérieur, en fait, parce que justement, j'ai plus du tout cette volonté de briller ou des trucs comme ça et de dire « Ouais, c'est trop bien, chez nous, on fait les meilleures soirées, les meilleurs trucs et tout, je m'en fous, en fait, maintenant. » Donc, je vise plus à un public familial et je vise surtout les enfants, en fait. Je pense que le vrai gros taf, c'est d'aller chercher les mioches, quoi, et de leur dire « Là, les gars, vous avez vraiment pas de chance, parce que nous, on a grandi avec le sida. » Vous grandissez avec la fin du monde quand même. Nous, c'était déjà une bonne paire de manches, mais eux, putain, mais c'est vraiment... C'est chaud pour eux. Donc en fait, nous, si on peut leur apporter un espèce de truc, de dire, non mais oui, ça va mal, mais on peut aussi s'accrocher à une utopie, à un espoir, en fait. Parce qu'il y a toujours un espoir. Hein. De toute façon, c'est la vie, c'est des cycles, et on va toucher le fond, je pense. On va vers le fond, mais il y aura forcément un rebond, quoi. Non, on va toucher le fond. Après, c'est Guillaume Meurice qui dit ça. Il dit « Mon seul plaisir en ce moment, c'est de voir que ce système est en train de s'effondrer. » Et en fait, il est en train de vivre ses derniers soubresauts, là, de comme une poule qui est en train de mourir, comme quelqu'un en train de mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un être vivant mourir, mais il y a les 3-4 derniers soubresauts avant la fin. Et j'ai l'impression que la société dans laquelle on vit en est là. On est aux 3-4 derniers soubresauts avant la fin. Ça va être long, ça va faire mal, mais on est en train de vivre la fin d'une ère, hein, et tant mieux, quoi. Donc à nous maintenant de construire et de montrer et de sensibiliser les gens à cette nouvelle ère, quoi.
Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la ferme Suricat & Co?
Ah bah que ça continue comme ça et qu'on continue sur cette lancée-là, parce que là en ce moment tout va bien. J'attends la quille parce que j'ai pas l'habitude à ce que tout aille bien comme ça là. Mais tout va bien, donc du coup que ça continue comme ça quoi. Qu'on produise des beaux légumes, qu'il n'y ait pas une énorme maladie, qui ravage tout, ça arrivera pas, ou une grosse inondation, ça devrait pas arriver non plus, parce que ça y est, on est en train de sortir de la saison de compliquée quoi. Non, bah qu'on continue à fonctionner comme ça et qu'il y ait plein de gens qui viennent découvrir un peu ce nouveau modèle quoi.
T'as pas présenté les poules?
Ah, les poules. Eh ben les poules, pareil, on avait fait un délire avec des potes, hein. C'était en soirée, on s'est dit tiens, si on adopte une poule, et du coup il y a les poules. Et les gens ont la possibilité, ça a super bien marché la première année. Après je le fais vraiment, en fait c'est ça, je fais des délires et après j'arrête parce que on s'en fout là. L'idée c'était de rentabiliser parce que le petit hangar des poules il a été fait à la main complètement et ça a quand même coûté assez cher. Hein, déjà une poule c'est assez cher, donc il y en avait une vingtaine. À la fin de saison, on n'en avait plus que 3. Enfin, c'était l'enfer. Elles se sont fait défoncer par les fouines, les renards, etc. Parce qu'elles avaient vraiment... C'était les poules de Monsieur Baillet. Après, la chèvre de Monsieur Seguin. Donc, je leur ai expliqué, les filles, je vous protège avec un filet. Ça sert à vous protéger. Ne vous barrez pas, vous allez mourir. Et elles se barraient. Et elles mouraient. Donc, voilà, on est passé de 20 poules à 3 poules.
Et là, il y en a 3-4.
Là, il y en a 17. Il y en avait 18 il n'y a pas longtemps. Mais il y en a une qui est morte là, de maladie, je pense. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Après, elle s'est peut-être fait attaquer aussi, hein. On ne sait pas, parce qu'il se passe quand même des trucs la nuit ou en fin de journée. Finalement, du coup, je sais pas, il y en avait pour 500 ou 600 euros d'investissement quand même pour la cabane, le petit portillon, ça coûte quand même assez cher ça. Un truc automatique qui vraiment les protège la nuit. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, pour rentabiliser ça, on va faire adopte une poule. Et du coup, les gens, ils payaient 150 euros pour avoir leur poule à l'année et ça leur garantissait 6 œufs par semaine. Et donc ils venaient chercher leurs œufs toutes les semaines et puis à la fin de la saison ils pouvaient repartir avec leur poule soit sur pied soit au pot. Finalement c'est jamais arrivé au pot parce que même on attendait tous ce moment précis où j'allais à l'abattoir avec les poules où je le faisais moi-même et en fait on l'a pas fait, hein, hors de question. Elles sont trop mignonnes. Elles s'appellent toutes Jacqueline, c'est le prénom de ma mère. Du coup vu qu'elle passe son temps à jacasser, bah voilà c'est Jacqueline, 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 Jacqueline. Ça c'est une grosse blague avec mon fils. Et que j'ai pas présenté non plus parce que Valentin est le petit fermier ici. Et voilà, c'est très drôle. Et ça a super bien marché la première année. Je sais pas, je devais avoir une dizaine de poules adoptées quoi. C'était dingue. Adopte une poule. Donc en fait, un délire de soirée avec des potes, ça se termine dans le journal et puis ça marche en fait. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui me fait marrer. C'est en fait, après, je l'ai pas trop relancé parce que c'était pas très grave. C'était rentabilisé du coup. Et puis puis c'est cool les poules quoi. Mais c'est ça qui est drôle, c'est de lancer des idées, lancer des petites expérimentations comme ça et de se dire tiens, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, ça nous fait bien marrer. Et tu vois, quand on fait des fêtes, là, il y a les gros barbecues qui sont là. Du coup, on fait un espèce de comment on peut appeler ça, un self. En fait, on vend une moitié de baguette aux gens, on fait précuire, donc il y a des saucisses, du poulet, etc., des super bonnes, en plus de super bonne qualité. Et j'ai une amie qui fait la cuisine, Linda, là, qui est la présidente de l'association. Et qui prépare plein de trucs et les gens se servent dans leur sandwich. Ils se font un sandwich mais méga luxe, c'est de la tuerie. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire vraiment la simplicité la plus basique. Il y a des jeux de plein air qui sont sortis, etc. Et puis les gens ils s'amusent, ils sont là, ils passent du bon temps, ils sont cool. Et puis voilà, c'est un peu ça l'idée quand on fait l'événement. Et après, ben, y a toute la partie agricole où c'est un peu pareil. Et puis là, on est aussi en train de monter un magasin de producteurs avec des copains là. Qui va ouvrir sur Avignon en avril 2023. Du coup, là, ce sera trop cool parce qu'en fait, on fera nos livraisons. Moi, j'irai bosser, j'imagine, 2 demi-journées par semaine. J'arriverai avec mes légumes, bim, on se pose, on travaille, on rencontre les clients. Et puis ça va être vraiment cool. Parce qu'on est vraiment en train de... Ça, on n'en a pas parlé non plus, mais on est vraiment en train de réfléchir à comment on rééquilibre aussi par rapport au prix de l'essence. Oui, il va peut-être y avoir des petites baisses, mais ça va inexorablement monter de toute façon, faut pas rêver, hein. ça va devenir une denrée très rare et ça va monter. Et moi j'y suis assez favorable, hein, d'ailleurs. Si ça partait pas dans les poches des industriels, si en fait ces taxes-là ne nourrissaient pas un système... Bref, on va pas revenir là-dessus, mais... Et de dire, voilà, c'est cher, donc réfléchissons à nos façons de se déplacer, parce que moi j'ai souvent du poids, tu vois, mais même là, en fait, là c'est sûr, je suis avec ma camionnette, c'est chiant, etc., mais j'avais une tondeuse dedans, donc du coup, en fait, j'ai quasiment tout le temps du poids. Et au pire, j'ai mon chien. En fait, Poppy me gêne vraiment là-dessus, sur les déplacements. Je l'ai tenté la semaine dernière parce que mon camion était en panne. Elle peut faire un aller, elle peut pas faire un aller-retour, quoi. Un chien ne peut pas se taper 20 bornes en courant à côté de son maître à vélo. C'est pas possible, même s'il est en forme. Hein. Mais comment on réfléchit à nos circulations, à nos déplacements, à nos livraisons, à tout ça, en rentrant justement ce truc-là? Parce que quand on fait des zigzags pour rentrer chez soi, c'est rigolo au début, mais en fait, quand on a l'essence à 2 euros, c'est plus drôle du tout, en fait. Ça nous met vraiment en difficulté. Comment on va faire? Je me demande surtout pour les gens du bâtiment, parce que là, en fait, c'est en train de s'envoler, tous les prix là, des matières premières, etc. Comment on va faire? Est-ce que c'est nous qui allons faire tampon par rapport au consommateur final? Et donc, nous, on va encore perdre un peu plus sur le peu de marge qu'on se fait, ou est-ce qu'on va pouvoir monter nos prix? C'est des vraies grosses questions en ce moment, là, de savoir comment on va faire, en fait, parce que moi, mes légumes, je les vends quand même relativement cher. Je peux pas trop monter les prix, mais en même temps, c'est aussi c'est des vraies questions, je pense, qu'il faut qu'on se pose à grande échelle. Je sais que le Vaucluse est vraiment en train de se poser la question de tout ce qui est friche agricole, les remettre en culture avec des céréales, etc. Ça, c'est une super bonne idée. Il faut le faire. Il aurait fallu y penser avant, mais... Enfin, j'ai l'impression qu'on attend toujours la crise en se disant « jusqu'ici tout va bien, quoi ». C'est exactement ça, c'est la haine. Hein. Jusqu'ici tout va bien, c'est bon. Non mais les gars, en fait, nous on passe vraiment pour des gros tarés hein, quand on leur dit « Non mais les gars, on va dans un putain de mur, là, c'est... Non, ça va. Non, ça va pas. Enfin, ça va s'arrêter, là, un moment, en fait. Ça va arriver. C'est pas... Je l'ai dit à Noël, j'ai un peu gâché l'ambiance à Noël, mais j'ai dit à... Ma mère disait « Non, non ». Je disais... Mais putain, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Damien Bayet qui le dit, grand prêtre, grand messie de la décroissance, c'est pas moi. C'est des milliers de scientifiques qui disent, là, en fait, le mot apocalypse, vos enfants vont le découvrir, vraiment. L'apocalypse arrive, 2030, on le sait. Eh ben, est-ce qu'on s'y prépare ou pas? Et nous, on est en train de s'y préparer. On sera pas prêt, hein, personne sera prêt. Mais il y a des gens qui seront préparés, d'autres qui seront pas préparés, quoi. Parce que des gens l'auront intégré, donc le travail collectif, le regroupement avec les copains, entre les professions, entre les trucs, etc. Voir, ça, c'est des notions qui vont devoir être au cœur des préoccupations des gens dans les années à venir. Hein. Très clairement, hein. Comment on fait pour s'entraider, quoi. Je suis paysan politique, tu n'es pas anticapitaliste, tu ne peux pas être écologiste, en fait, pour moi. C'est très clair, en fait. Bah non, en fait, c'est antinomique. Ce n'est pas possible. Et moi, en disant ça, je ne suis pas un sale gauchiste, en fait. Je suis pas un... C'est quoi leur truc, là, islamo-gauchiste? Non, je suis pas islamo-gauchiste en disant ça. L'environnement, si tu veux protéger l'environnement, il faut tuer le capitalisme, en fait, très clairement.
Amen.
Et le capitalisme, mais je pense qu'en fait, il faut... Moi, c'est une pote hein, qui m'a fait prendre conscience que j'étais anticapitaliste. C'est... Parce que moi, je lui disais, non, je suis plutôt pour l'économie de marché, etc. Elle fait, non, mais t'es pas capitaliste. Parce qu'elle me connaissait, et je fais, si, je pense. Elle fait, non, va chercher la définition de capitaliste. Et capitaliste, c'est utiliser autrui pour son propre profit, en fait. Donc non, je ne suis pas capitaliste, très clairement. En fait, je ne veux pas utiliser des gens pour gagner plus d'argent, utiliser leur force de travail, leur temps de présence, leur... Je le fais de facto avec apprentis, stagiaires, etc. Très clairement, je le fais. Mais en fait, j'estime que ce que je leur apprends, je leur donne tout. Je leur donne toutes mes connaissances techniques. Elles sont illimité, hein, mais tout ce que je sais, en tout cas, je leur transmets, je leur donne tout. Et c'est un peu ma forme de salaire, quoi. C'est que l'argent, je l'ai pas de toute façon, donc je peux pas l'inventer. Mais je leur transmets tout mon savoir, et ça, c'est hyper important aussi. Enfin, c'est du troc, quoi. On l'a plus le temps, en fait. On a plus le temps. C'est maintenant. En fait, 2027, ce sera trop tard. Et de toute façon, on sait que ce sera trop tard.